Laudetur Jesus Christus.
La trêve est entrée en vigueur ce dimanche entre le Hamas et Israël, permettant de redonner de l'espoir pour la région. Depuis Rome, le pape François saluait les efforts de médiation qui ont permis d'arracher l'accord, mais souhaitait également que chacun œuvre pour une véritable paix. Nous l'entendrons. La libération de prisonniers palestiniens et l'arrivée d'aide humanitaire a provoqué la joie dans la bande de Gaza, une joie et une émotion forte aussi pour les familles d'otages israéliens. Trois jeunes filles ont été libérées hier après 15 mois de captivité aux mains du Hamas. Et puis l'autre temps fort de ce lundi aura bien sûr lieu à Washington avec la prestation de serment attendue de Donald Trump au Capitole. Nous verrons que beaucoup de leaders politiques mais aussi économiques souhaitent être sur la photo de famille. Dans notre dossier ce matin, nous nous demanderons s'il existe des contre-pouvoirs au nouveau président américain alors que les républicains sont dominants et majoritaires au Congrès.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape appelle au respect du cessez-le-feu dans la bande de Gaza après la prière de l'Angélus hier. François a remercié les médiateurs qui ont permis d'arracher la trêve entre Israël et le Hamas. Il a souhaité le retour des otages israéliens auprès des leurs et l'acheminement rapide de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le Saint-Père qui a également appelé à la reprise des négociations pour une solution à deux États. Retour sur ces mots avec Xavier Sartre.
2 heures à peine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, c'est un merci que le pape adresse tout d'abord aux médiateurs et à tous ceux qui ont été impliqués dans la médiation. Mais si le Saint-Père est reconnaissant envers les efforts diplomatiques, il reste prudent, souhaitant que ce qui a été convenu soit respecté tout de suite par toutes les parties, à commencer par la libération des otages israéliens pour qu'ils retournent finalement chez eux et embrassent leurs proches. François n'oublie évidemment pas non plus les Palestiniens.
Spero pure che gli aiuti umanitari raggiungano ancora più velocemente la grande qualità.
Je souhaite que l'aide humanitaire parvienne encore plus rapidement et en grande quantité à la population de Gaza qui en a un besoin urgent. Le pape voit au-delà de cette urgence et estime qu'Israéliens et Palestiniens ont besoin également de signes clairs d'espérance, d'où son souhait que les autorités politiques de chaque côté, avec l'aide de la communauté internationale, parviennent à la juste solution de deux États, que tous puissent dire oui au dialogue, oui à la réconciliation, oui à la paix, exhorte-t-il, appelant les fidèles à prier pour cela.
Xavier Sartre est dans une interview hier soir à la télévision italienne. François revient sur son attachement à une solution à deux États. La paix, précise-t-il, est supérieure à la guerre, mais il faut du courage pour la faire. L'entrée en vigueur de cette trêve est une source d'espoir pour des centaines de milliers de Palestiniens à Gaza, dont les conditions de vie restent catastrophiques. Plusieurs images fortes sont à retenir de la journée d'hier, comme nous l'explique notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferrand.
Eh bien, cette première journée de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu peut être résumée par 3 images peut-être. D'abord, celle bien sûr de la joie, du soulagement des habitants qui ont entrepris de regagner les villes dont l'armée israélienne s'est retirée. La deuxième image forte, c'est celle du déploiement des forces de police palestiniennes sur le terrain, alors qu'elles ont été la cible permanente de l'armée israélienne depuis 1 an et demi, car considérée comme faisant partie de la branche armée du Hamas. La troisième image, c'est peut-être celle des pelleteuses dans différentes municipalités de la bande de Gaza qui ont commencé à déblayer des rues. Et la journée a été ponctuée d'autres moments historiques, notamment dans l'après-midi avec la libération de 3 Israéliennes capturées le 7 octobre 2023. La suite s'est déroulée en soirée en Cisjordanie, qui avait été d'ailleurs largement bouclée par les forces d'occupation israéliennes et où 90 femmes et adolescents palestiniens qui étaient incarcérés en Israël ont été libérés.
Valérie Ferron, notre correspondante à Jérusalem. Une personne dans la bande de Gaza reçoit presque quotidiennement les appels du pape François. C'est le père Gabriel Romanelli, le curé de la paroisse de la Sainte Famille dans l'enclave palestinienne. Nous l'avons joint quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il nous a raconté le soulagement de la population, mais beaucoup reste à faire, à commencer par reconstruire, car presque tout à Gaza a été détruit par l'armée israélienne. On l'écoute.
Il y a vraiment de l'espoir. Les gens commencent à penser, à vivre. Il y a plusieurs déplacés qui veulent aller vers leur maison ou vers l'endroit où se trouvait leur maison. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas permis parce que c'est encore une zone militaire et que l'armée va se retirer petit à petit. Les autorités israéliennes ont expliqué qu'il n'était toujours pas possible de s'approcher de la mer pour pêcher ou pour nager. Beaucoup pourtant voudraient nager malgré le froid. Alors certes, il y a du soulagement. Les gens commencent à réfléchir à la manière de reconstruire leur maison, de reprendre leur vie. Mais l'incertitude demeure. Toutes les structures de Gaza sont détruites. Très peu d'entre elles sont encore debout. C'est pourquoi l'aide humanitaire est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Les gens attendent déjà de voir comment ils peuvent reconstruire leur maison, mais cela n'est pas inclus dans cette première phase de l'accord de cessez-le-feu.
Le père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, des propos recueillis par Benedetta Capelli du programme italien de Radio Vatican. Côté israélien, c'est également un grand soulagement chez les familles de certains otages. Trois jeunes filles ont été libérées donc hier. Romy Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, et Doron Steinbrecher, 31 ans, après 15 mois de captivité aux mains du Hamas. D'autres familles israéliennes attendent avec angoisse aussi leurs proches. Sur la place des otages, c'est comme ça qu'elle est renommée dans le centre de Tel Aviv, des milliers de personnes se sont réunies pour suivre leur libération avec beaucoup de joie et d'émotion. Les trois jeunes femmes libérées ont été emmenées dans un hôpital pour une visite médicale. Dans le reste de l'actualité, la guerre bien réelle qui se poursuit, elle, entre la Russie et l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense confie ce matin avoir abattu 31 drones ukrainiens qui visaient notamment des entreprises industrielles au Tatarstan, dans la région de la Volga, une zone située à 1000 km de la frontière ukrainienne. Hier, Moscou avait déjà annoncé ouvrir une enquête sur des allégations selon lesquelles des troupes ukrainiennes auraient tué des civils dans un village russe conquis par les forces de Kiev. Un regain de violence aussi en Colombie, dans la région du Catumbo, c'est à la frontière avec le Venezuela. La guérilla de l'ELN a mené une attaque meurtrière contre des dissidents des FARC et la population civile. Le bilan est très lourd, plus de 80 morts et 11 000 personnes déplacées depuis jeudi dernier. L'armée colombienne a intensifié son déploiement dans la région. Aux États-Unis, c'est une première en 40 ans. La cérémonie d'investiture de Donald Trump comme 47e président du pays aura lieu à l'intérieur du Capitole. Le froid polaire qui s'est abattu sur la capitale américaine, moins 12 degrés ce matin, a en effet forcé le républicain à changer ses plans, ce qui ne devrait pas l'empêcher de jubiler au moment de retrouver le pouvoir, et cela devant un parterre d'invités prestigieux entre dirigeants d'extrême droite ou milliardaires de la tech. Les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Loïc Loury.
Sous la rotonde du Capitole, lorsque Donald Trump prêtera serment, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, premier soutien de la campagne Trump, devrait être très bien placé. Autour de lui, les patrons de la tech seront pléthores. Jeff Bezos pour Amazon, Tim Cook pour Apple et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et néo-trumpiste tout juste converti. Tous les trois ont versé $1 million au fonds d'investiture du futur président. Comme eux, des dirigeants d'extrême droite venus du monde entier chercheront à s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, Javier Milei, le président argentin, et jusqu'aux Français Éric Zemmour et Marion Maréchal. La tradition veut pourtant que les dirigeants étrangers n'assistent pas aux investitures des présidents américains. Mais Donald Trump souhaitait peut-être s'afficher en chef de file d'une grande internationale réactionnaire. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La question migratoire qui, pour le nouveau président américain, pourrait très vite revenir au centre du débat. Des agents de la police des frontières des États-Unis ont installé déjà vendredi dernier des fils barbelés entre la ville américaine d'El Paso et sa voisine mexicaine de Ciudad Juárez. Le président élu Donald Trump, qui avait fait promesse d'une expulsion massive de migrants, expulsion qui suscite bien sûr des inquiétudes à la frontière sud, mais aussi chez de nombreux défenseurs des droits humains. Hier, le pape François a qualifié de honte ces expulsions si elles venaient à être effectives. Dans la même interview télévisée donnée hier soir, le souverain pontife qui a fait aussi une annonce sur un tout autre sujet. C'est une femme qui prendra bientôt la tête de l'une des plus importantes administrations du Vatican. François a révélé qu'il nommerait au mois de mars prochain la religieuse Raffaella Petrini, présidente du gouvernorat de la Cité du Vatican. Elle était jusqu'ici la vice-présidente. Plus d'informations à retrouver sur ce sujet, bien sûr, et sur les autres propos du pape lors de cette longue interview télévisée. C'est à retrouver sur vaticannews.va. Huit ans après sa première investiture, quatre ans après l'assaut du Capitole, c'est donc sous la rotonde de ce même monument symbolique de Washington que Donald Trump prêtera donc serment ce lundi pour devenir officiellement le 47e président des États-Unis. Le 5 novembre dernier, après une campagne présidentielle intense et rocambolesque, c'est finalement avec plus de 2,5 millions de votes en plus que le candidat républicain s'est imposé face à la démocrate Kamala Harris, remplaçante au pied levé l'été dernier du président sortant Joe Biden. Les républicains qui s'emparent également de la majorité au Congrès américain, composée du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis. Une nouveauté par rapport au premier mandat de Donald Trump où les démocrates avaient gardé la majorité au Sénat. Alors y a-t-il aujourd'hui des contre-pouvoirs aux États-Unis ? Donald Trump a-t-il les coudées franches pour appliquer son programme ? C'est les questions que nous avons posées à notre invité ce matin, Jacob Maillet. Il est docteur en histoire des sciences politiques américaines, professeur à l'université Paris-Cité.
Les trois branches de pouvoir sont aux mains de son parti. Est-ce que ça veut dire que les trois branches sont dans ses mains à lui ? Il y a une subtile différence tout de même. Donc il a énormément de latitude pour déployer un programme conservateur. Pour ce qui est de déployer un agenda un peu plus trumpiste, je pense par exemple à tout ce qui va être mis en place pour déporter des sans-papiers, on peut déjà anticiper des résistances tout de même. Tout le monde ne lui obéira pas sans réserve. Ça peut être des questions techniques, tout simplement. Même des hommes et femmes politiques républicains, même des juges conservateurs peuvent exiger que les choses soient faites dans l'ordre, dans le respect de la jurisprudence ou des traditions ou des conventions de la démocratie américaine. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts au sein même de son programme. Et ça peut quand même ralentir la mise en place d'un programme très radical.
Et appliqué sur le terrain judiciaire, on se souvient de ces tribunaux fédéraux qui avaient rejeté des décrets présidentiels, notamment concernant le Muslim ban. Est-ce qu'au niveau local, il y a un contre-pouvoir judiciaire, quand on sait évidemment qu'au niveau fédéral, la Cour suprême, il y a donc 6 républicains sur 9 juges?
Alors, ce qu'il va se passer, c'est que les démocrates sont déjà prêts, d'ailleurs on le sait, à déposer tout un ensemble de recours pour résister aux mesures de l'administration Trump. Par le passé, ça a été assez efficace. On l'a vu notamment avec le fameux Muslim ban. En général, avec une Cour suprême dominée par les conservateurs, c'est plutôt des procédures qui ralentissent plus qu'autre chose. Après, ce qui m'inquiéterait personnellement, c'est que la différence aujourd'hui par rapport au premier mandat, c'est qu'il y a beaucoup plus de juges nommés par Trump, plus radicaux, à tous les échelons de l'appareil fédéral. Or, on a déjà vu, ne serait-ce que dans les affaires de Trump lui-même, qu'un juge nommé par Trump au bon endroit peut avoir beaucoup d'influence.
Concernant la Cour suprême, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle appuie ses décisions ou ce sont finalement des juges qui, même si nommés par Donald Trump, sont là sur le temps long et revendiquent une certaine forme d'indépendance ?
Les deux, ça dépend vraiment des juges. Et aussi, selon les affaires, que les plus radicaux ne sont pas forcément ceux nommés par Trump. Ce sont quand même d'éminents juristes, hein, donc ils ont aussi leur position personnelle. La Cour suprême ne le suivra jamais jusqu'au bout. D'autant qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le président de la Cour suprême, John J. Roberts, lui, est particulièrement attaché à l'institution, aux procédures, et essaye de faire pression sur ses collègues pour ne pas mettre en péril l'institution et sa crédibilité sur le long terme.
On a vu Donald Trump s'affranchir des normes démocratiques, l'assaut du Capitole, la non-reconnaissance des résultats électoraux, etc. Mais est-ce qu'il a un projet antidémocratique ou qui mettrait à mal tous les équilibres des pouvoirs tels qu'ils sont conçus aujourd'hui aux États-Unis ?
Pour ce qui est de nuire aux institutions américaines, aux institutions au sens constitutionnel, je doute que Trump soit une menace. Maintenant, il y a ensuite le deuxième niveau, c'est au sens de l'exercice du pouvoir. Là, clairement, Trump a un projet qui vise à maximiser le pouvoir exécutif. Donc il aura beaucoup plus de moyens d'action sur les agences du gouvernement fédéral pour mettre en place un programme assez radical, que ce soit au niveau de l'environnement ou en termes de santé et aussi en lien avec l'immigration, évidemment. On sait que Trump est une sorte de négociateur, qu'il aime bien les transactions, donc qu'il peut négocier des capitaines d'industrie pour obtenir des concessions dans un sens. Donc si on parle en termes d'état de droit, Là, par contre, il y a une vraie menace, indubitablement. En fait, la grande inconnue, de manière générale, c'est de savoir à quel point Donald Trump lui-même croit à l'idéologie qu'il met en avant.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Jacob Maillet, docteur en histoire des sciences politiques américaines, était l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h. Excellente journée.